Et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Moodstep pour parler de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous recevons Pilar Lopez. Nous allons explorer les constellations systémiques. Alors, je vous laisse découvrir le podcast et depuis l'enregistrement, en fait, j'ai fait une séance avec Pilar et je vous donnerai un peu mon ressenti ou ce que j'ai vécu avec elle en fin de podcast si ça vous intéresse. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu de connaissances de soi en coopération avec les autres pour des groupes d'en général plus de 100 personnes sur une durée de 2 heures. Retrouvons tout de suite Pilar. Bonjour Pilar.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous nous sommes rencontrés, je pense, il y a 2 ans et je retrouve ton énergie flamboyante sur un sujet en plus qui m'intéresse tout particulièrement puisque plusieurs personnes m'ont invité et m'ont dit « tu devrais faire une constellation ». Donc, on va parler de constellation systémique ou aussi connue sous le nom de constellation familiale. Mais avant qu'on traite du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Eh bien, je vais essayer. Je m'appelle Pilar Lopez. Je dis toujours que les pièces détachées sont d'origine espagnole, mais je suis un pur produit de l'éducation française. Je suis coach et comme j'aime bien m'appeler Kick-Ass Coach, hein, parce que j'ai l'impression d'être un coach avec un niveau d'énergie un peu supérieur à la moyenne, j'espère, mais aussi avec un parcours qui, pour moi, est original par rapport à toutes les collègues que je fréquente, puisque je suis une ingénieure agronome pur jus d'origine. J'ai commencé ma vie professionnelle dans l'informatique en tant qu'ingénieur informaticien. J'ai travaillé pour l'armée, pour te dire, et tout au long de ma carrière, puisque aujourd'hui coach, c'est une reconversion pour moi, je suis passée de l'intelligence artificielle à l'intelligence émotionnelle par un parcours assez simple qui est que donc, j'ai commencé par programmer sur des machines. Et là, quelqu'un de bien m'a dit « Pilar, on a un problème avec toi, c'est que tu aimes trop les gens. Oh » Alors, ce qui était terrible à l'époque. Donc, t'imagines un plateau de 250 mecs en train de programmer comme des fous pour l'armée en plus. Et là, mon boss vient me voir en disant « Pilar, tu programmes très très bien, mais t'aimes trop les gens. Donc, tu vas te faire chier ici avec nous, les Técos. Donc, nous allons te libérer pour que tu ailles vers des compétences un peu plus soft et un peu plus people. » Et donc, je suis passée de la maîtrise d'œuvre technique, comme on disait à l'époque, vers l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire accompagner les clients à gérer leurs projets, à piloter des projets. Donc, je suis devenue la reine de la gestion de projets super compliquée. Et puis, pour faire la conduite du changement, pour mettre en place tous ces projets, bah, dedans, il y a de la communication, il y a de la formation. De la formation, je suis passée au coaching et du coaching à la thérapie. Et aujourd'hui, je suis moitié coach en entreprise et moitié thérapeute dans mon cabinet.
Quand est-ce qu'a eu lieu cette reconversion, ou en tout cas, c'est une continuité, bien sûr, mais quand est-ce que tu t'es lancée à ton compte ?
Je me suis lancée à mon compte quand je me suis dit que plus jamais j'aurais au-dessus de moi un connard plus con que moi. Alors, je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, mais moi, j'ai commencé ma carrière sur le même rythme que j'ai terminé ma scolarité. J'ai terminé mes études et le lendemain, j'étais embauchée chez ce qui allait devenir Accenture. Et là-bas, c'était un certain type de mentalité où le but du jeu, c'est d'avoir la plus grosse augmentation à la fin de l'année. J'étais très, très bonne à ça. Jusqu'au jour où j'aille voir un de mes associés en leur disant voilà, quand même, je rapporte beaucoup, je voudrais savoir quand est-ce que je rentre dans la seringue pour devenir associé moi-même. Et là, le mec m'a regardé et il m'a fait mais Pilar, tu es trop jeune et tu es une femme en plus.
Non.
Et je te jure. Et alors, le pire, pour te dire à quel point j'étais siphonnée du cerveau à l'époque, hein, c'est que sur le coup, je me suis dit mais oui, je suis une femme, pour qui je me prends ? Et donc, j'étais complètement dans ce système, machiste, misogyne, tout ce que tu veux. Et j'étais la première méchante pour les filles en tant que fille. Alors, ce qui était drôle, c'est que mon inconscient est facétieux et m'a rattrapée, puisque le soir même, je suis tombée enceinte. Et je leur ai collé dans la gueule un bon congé mat, plus un congé parental. Et je ne suis jamais revenue, puisque j'ai négocié mon départ à cette occasion. Et j'ai quitté donc le conseil en management pour devenir directrice de formation. Et donc, ça s'est très mal passé. puisqu'en fait, j'étais sortie avec mes critères de succès et de réussite du conseil en management, qui sont un peu particuliers. Et dans le monde de l'entreprise, quand je suis passée de l'autre côté du miroir, eh bien, j'ai gardé mes critères de réussite de consultant. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, je me faisais chier puisque j'avais fait le tour du poste. J'avais des comportements de consultante, c'est-à-dire que moi, j'allais voir le patron sans respecter toute l'étiquette hiérarchique qu'il y a dans une entreprise. Et du coup, ça s'est très, très mal passé avec mon boss de l'époque. Et là encore, puisque je fais des bébés à chaque fois que je vais mal, j'ai fait mon deuxième enfant, ce qui me permet en fait de quitter l'entreprise avec de bonnes raisons. Genre, ah non, je suis enceinte, je peux plus. Et là, pour le coup, après mon congé maternité, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai un problème avec l'autorité, qu'est-ce qui m'arrive ? Et c'est là que j'ai dit, bon, voilà, l'entreprise n'est plus faite pour moi, ce qui n'est pas vrai, hein, j'ai mûri depuis, mais voilà, sur le coup, pour moi, c'était impossible de retourner en entreprise. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas me mettre à mon compte, être en freelance. J'ai profité de mon congé maternité pour me former à la sophrologie, qui est une méthode que j'avais découvert en préparant mon accouchement, qui m'avait intéressée. Et je me suis dit, tiens, ce truc-là, c'est sympa, je vais faire sophrologue pour consultant stressé. Ça va être super. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la porte. Et depuis, ça fait 10 ans.
D'accord. Alors, on en vient au sujet des constellations systémiques. Juste avant de commencer, on parlait. On va expliquer ce qu'est une constellation. Dans mon esprit, c'était quelque chose qui se faisait en groupe. Mais tu me dis que non, toi, tu le fais de façon individuelle. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est une constellation systémique ? En quoi ça consiste ?
Alors, une constellation systémique, pour moi, c'est un outil thérapeutique ou de découverte, d'enquête, qui permet d'accéder à l'inconscient de la personne qui fait la constellation pour laquelle on fait la constellation. Par exemple, tu as un problème, qu'il soit personnel ou professionnel, tu veux faire une constellation pour le résoudre parce que tu as essayé plein de trucs et qu'il n'y a rien qui marche, eh bien, la constellation va permettre, en mettant en scène un certain nombre de mots-clés que tu as dans ta tête, de mettre en évidence le vrai problème tel qu'il se pose dans ton inconscient et dont tu n'as pas conscience. Mais est-ce que c'est clair ?
Alors c'est clair, là c'est sur les bénéfices, mais à quoi ça ressemble ? Je que c'est trop vague encore pour moi.
À quoi ça ressemble ? Alors imagine, tu viens me voir en disant voilà, j'ai un problème, je veux monter, on m'a nommé, alors je sais que c'est pour des managers, mais par exemple, j'ai eu le cas récemment d'une personne qui veut monter sa boîte. Mmh. Et donc, elle a déposé les statuts, elle a fait... et elle dit, je comprends pas, je suis hyper motivée, je suis hyper claire sur ce que j'ai envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Et pourtant, je suis bloquée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... alors, moi, je l'ai fait en individuel, donc j'utilise des bouts de papier. Donc, j'ai demandé à cette personne de mettre sur une feuille son prénom, mmh, sur une autre feuille, le nom de sa boîte, et de poser ces deux papiers par terre dans mon cabinet. Ça peut se faire aussi dans son bureau, hein, y a pas de souci. De poser les papiers tels que ça lui semblait juste d'être posé. Alors normalement, quand ça se fait en groupe, à la place de poser des papiers, on choisit un représentant pour chaque... Donc si tu vas choisir quelqu'un pour te représenter toi, tu vas choisir quelqu'un d'autre pour représenter ton problème, quelqu'un d'autre pour... Enfin, selon la façon dont la personne parle de son problème, ça peut être je pose toi l'argent, ma société, je pose moi, mon manager, le reste de mon équipe. C'est la façon dont la personne parle de son problème qui te donne des indications sur les papiers ou les représentants à poser dans la constellation pour la raison.
Donc les éléments peuvent être soit des personnes, soit des sujets en fait, ou même des entités.
Des entités, des archétypes. J'ai un joueur de poker parmi ma clientèle. On a posé la chance. Voilà, lui, il avait jamais de chance. Il voulait savoir pourquoi il avait jamais de chance. Donc, on a posé lui la chance et le poker.
D'accord.
Et c'était assez drôle.
Et une fois donc,
et on
que
va
ces
découvrir
papiers,
ouais, ce qui se passe.
D'accord.
Alors, une fois que ces papiers sont posés, ou une fois que ces représentants sont installés, puisque c'est la personne qui veut résoudre son problème qui place les gens, les représentants, si tu fais ça en groupe, ou qui placent les papiers, on va capter des choses. soit en tant que représentant, soit moi, ce que je fais, c'est que c'est moi qui vais sur les papiers et je vais jouer le rôle des représentants.
D'accord.
Donc moi, je capte de l'information et c'est, alors ça a l'air magique comme ça et c'est un peu ça aussi qui me plaît parce que j'adore quand mes clients me traitent de sorcière. Je le prends très très bien.
Pour une cartésienne agronome, c'est bizarre.
Oui, c'est pour ça que j'ai un peu viré ma cutie, mais pour moi, c'est très simple. Hein, c'est que cet outil me donne la permission à mon inconscient d'aller visiter l'inconscient du client. Et du coup, ça permet de rendre conscient tout ce qui se passe entre les deux inconscients. Vraiment, alors là, pour le coup, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est uniquement à travers cet outil, parce que tu vois, tu me croises dans la rue, je ne vais pas te lire dans ta tête. Par contre, dans une constellation, moi, ça me donne un cadre qui m'autorise. Voilà, le client me donne la permission d'aller chercher les informations nécessaires pour résoudre son problème au plus profond de lui-même. C'est ça le côté un peu magique et mystérieux, mais c'est ça aussi qui permet d'aller très, très vite.
Mais concrètement,
et moi, c'est ça que j'adore.
Concrètement, à quoi oui. ça ressemble? C'est-à-dire, tu te mets, par exemple, on prenait l'exemple de ta cliente avec sa création de société. Tu te mets à la place, donc tu te mets sur le papier où il y a le
donc
nom
de
sa société.
Tu te mets sur le papier de la cliente.
Mm-hmm. Ouais. De la cliente. Alors, ou exemple, de la société? C'est pas la cliente qui reste
sur son... Moi, je commence toujours par le papier du client pour voir dans quel état il est. Et de voir, par exemple, en l'occurrence, quand je me mettais sur le papier de la cliente, elle avait peur de sa société.
Mais ça, c'est juste ton ressenti quand tu vas sur le papier? Ou est-ce que tu as des éléments oui. pour te brancher?
Non. Moi, je veux surtout pas qu'on me raconte le moins on m'en raconte, le mieux je suis à l'aise. Hein, parce que du coup, je peux vraiment ne pas me censurer ou ne pas filtrer, ne pas biaiser les infos que je reçois. Et c'est vraiment, ça peut être du ressenti physique, ça peut être des sensations. Ça peut être des pensées, des images, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment, je suis ouverte à tout ce qui vient.
Ça veut dire, là, et, ce qui me vient quand même, c'est que le client, il n'est pas acteur à ce moment-là. Il observe...
Le client, il regarde.
Et il est en miroir avec ce que tu dis, si ça le touche ou pas, mais...
Exactement. Et moi, je suis très attentive à comment ça se passe pour le client qui regarde la situation avec du recul. Et surtout, moi, quand je dis, bon, alors là, par exemple, je ressens de la peur, du machin, que la personne me dise, ah ouais, effectivement, j'osais pas me l'avouer, ou ah tiens, bon, pourquoi Et quand je vais faire après le tour sur les différents papiers de la constellation, il y a une histoire qui se dessine, il y a une situation qui se dessine. Et quand je dis des choses, des fois, les gens se disent « Ah mais oui, c'est ça, c'est machin, ou c'est truc, ou bidule. Je pense à une constellation que j'ai faite où voilà, je me mets sur un papier et j'ai un ressenti bizarre dans la jambe en disant « Haha, c'est rigolo, on dirait que j'ai une jambe de bois. » Et le client me dit « Mais c'est tonton René. » Voilà, donc...
T'incarnes pas tonton René à ce moment-là quand même.
Écoute, alors des fois, c'est rigolo parce que les gens me disent « Mais c'est bizarre, t'as exactement le même geste » ou des fois, il y a des accents qui me viennent ou il y a des langues, des mots en langue étrangère qui me viennent. Donc ça, c'est le côté un peu magique. Mais en fait, c'est juste mon inconscient qui va piocher dans l'inconscient du client les infos nécessaires et suffisantes pour résoudre le problème. Et c'est ça que les constellations systémiques, pour moi, ont d'extraordinaire. C'est que on va faire une enquête. C'est vraiment comme une enquête policière pour savoir pourquoi le client a ce problème-là.
Attends, je t'interromps. Ouais. Tu dis une enquête, mais ça ouais. veut dire qu'il y a une interaction entre toi et le client?
Alors, moi, à la fois, mon client devient acteur sur la fin de la constellation quand on est en train de la résoudre. Mais avant... Si la situation est compliquée pour lui, s'il n'arrive pas à trouver un problème, c'est que inconsciemment, il n'a pas envie d'y aller. Donc, c'est moi qui vais y aller à sa place. C'est moi qui vais faire une grosse partie du boulot. Et quand la situation devient claire, quand les énergies ont commencé à changer, quand on commence à pouvoir réfléchir sur le truc, à ce moment-là, je fais intervenir et le client, je le remets sur son papier. Et on va terminer la constellation avec le client qui, alors c'est rigolo parce que c'est vraiment un concept que moi j'avais utilisé à l'époque où j'étais vraiment consultante, qui était de, il y a un truc qui s'appelle fermer le camembert. Fermer le camembert, c'est faire approprier par le client le travail que tu as fait. Quand tu es consultant, quand tu es consultant management en l'occurrence, tu viens apporter de la force de travail, de l'intelligence au projet de ton client. Donc, tu fais des trucs que lui ne fait pas. Mais à la fin, c'est ton client qui a la responsabilité de tous les choix qui ont été faits sur le projet. Et surtout, à la fin, le client doit pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et en constellation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que comme je le fais en individuel, moi, je vais aller marcher sur les papiers, je vais récupérer l'info et je vais faire le travail de tous les représentants qui auraient dû être là normalement. Mais à la fin, je veux que le client s'approprie tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, parce qu'énergétiquement, il se passe des choses. Et à la fin, c'est bien le client qui fait sa constellation. Il y a zéro valeur ajoutée à entendre quelqu'un dire « Ah bah tiens, c'est rigolo, quand je me mets sur le papier de ton grand-père, alors je ressens du froid dans la jambe gauche ou autre chose. » Moi, je peux y aller très vite et donner l'info importante et intéressante à mon client. Je ne sais pas si je peux bitcher sur mes collègues qui font des constellations en groupe, mais moi, j'ai appris à faire des constellations en groupe. Et la grande masse des personnes qui font des constellations, ça se passe sur un week-end ou sur une journée. On fait venir 10 personnes qui se connaissent plus ou moins. Et puis, chacun va passer avec son problème et les gens vont être utilisés comme représentants au fur et à mesure. Moi, j'ai un problème avec les groupes, c'est l'effet miroir. C'est que souvent, on a des gens qui vont utiliser la constellation de quelqu'un d'autre pour faire leur propre travail thérapeutique pour eux. Alors, ça peut être bien dans la thérapie de groupe, pas de souci. Mais le problème, c'est que moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est que toutes ces personnes, elles fument un peu la moquette, elles ont du mal à faire la différence entre le ressenti que j'ai en tant que représentant et mon propre ressenti. Donc, tu ne sais pas quand ils ont froid à la jambe, si c'est une vraie info pertinente ou s'ils ont vraiment froid à la jambe, point. Il y en a qui profitent, enfin, il y en a qui confondent constellation familiale avec, comment ça s'appelle, j'appelle ça les drama queens, mais c'est la, tu vois, j'oublie le nom, mais c'est du psychodrame, voilà. Donc, tous les acteurs en mal de reconnaissance vont faire leur show. Alors que moi, voilà, j'ai un background de consultante. Quand je bosse pour mon client est mon soleil et je suis en orbite autour de lui et tout ce que je fais est pour lui. Donc, les gens qui viennent profiter des constellations de mes clients pour faire leur show, moi, j'en veux pas. La deuxième chose, c'est que moi, quand je viens sur les papiers, j'ai une même grille de lecture. C'est-à-dire que quand je me mets sur le papier de la cliente ou le papier de sa boîte, j'ai tout de suite les infos accessible directement et compréhensible par moi parce qu'il n'y a que moi qui les utilise. Donc du coup, je ne suis pas à faire la traduction entre un représentant qui aurait un certain type de ressenti avec un autre représentant qui aurait un autre vocabulaire en termes de ressenti. Ce qui fait que moi, comme je parle le même langage quand je vais sur les papiers, eh bien, on va 10 fois plus vite. Et du coup, en une heure, on peut vraiment résoudre. Et ça aussi, c'est une autre différence, c'est qu'il y a des gens qui utilisent les constellations juste pour éclairer un problème. Moi, j'éclaire le problème et si on peut le résoudre, on le résout. Donc, je suis un peu une extrémiste de la constellation qui est, je travaille pour mon client est dedans. Et surtout, comme j'ai une double casquette coach et thérapeute, je sais très bien ce que je peux dire à voix haute à mon client. Parce qu'il y a des choses que des gens qui ne sont pas thérapeutes, qui peuvent dire en tant que représentants, qui vont plus faire de mal que de bien à la personne qui fait sa constellation.
C'est un peu comme une pitié, c'est limite, ça me fait penser à de l'ésotérisme. Donc là, tout repose sur ta capacité à te brancher à l'inconscient. La question qui me vient, c'est... Comment on se branche à l'inconscient de l'autre et qu'est-ce qui dit que c'est juste, c'est limite de la voyance, quoi.
Alors, effectivement, moi, y a des gens qui me disent « Ah, mais t'es médium, c'est pas possible. » Non, non, moi, je ne communique pas avec les morts. À chaque fois qu'on me dit « Ah, mais c'est bizarre », je pense toujours à cette phrase dans le dessin animé Aladdin, où le génie, quand il est au fond de la grotte avec Aladdin, lui dit « Alors, tu as trois vœux, mais sache que je ne ressuscite pas les morts et je ne fais pas tomber amoureux. Donc moi, j'ai envie de dire, je ne parle pas avec les morts et je ne fais pas les retours d'affection en moins de 48 heures. C'est pas de la magie, c'est tout le monde a cette capacité où tous nos inconscients communiquent. Relie Jung, relie tout ça, c'est de notoire. Après, on utilise cette capacité ou pas.
Comment on développe ça ?
Alors, ça, c'est un peu... Alors, moi, je l'ai découvert en étant représentante dans une constellation. Je me suis retrouvée embringuée dans une constellation à l'insu de mon plein gré un jour. Et pour rendre service, la personne qui faisait la constellation m'a dit « Pilar, est-ce que tu peux jouer le rôle de machin ?» Moi, je dis « Je ne comprends rien, j'y vais pour faire plaisir à cette personne, il n'y a pas de souci. » Et là, j'ai ressenti des choses, parce qu'en fait, c'est en étant représentant qu'on sent des choses bizarres. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je parle comme si j'étais la personne. » Et là, je me suis dit mais c'est quoi ce merdier ? C'est quoi ce truc ? » Et la constellation était suffisamment bien menée pour que le problème soit résolu. Et je me suis dit « Mais cet outil est absolument génial. On fait 10 ans de thérapie en une heure. C'est génial. » Voilà, l'ingénieur en moi, la recherche d'efficacité en moi, a trouvé ce truc absolument fantastique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Tiens, je vais apprendre. » Et c'est là que c'est drôle, c'est que je me suis inscrite donc à une formation. Et le premier jour, on dit « Bon alors, le but du jeu, c'est de capter les énergies, c'est de ressentir, machin. » Et moi, j'ai passé ma journée à « Putain, je ressens rien, je ressens rien, je ressens rien, c'est quoi ce merdier ? Je suis pas, voilà, j'ai pas le don. » Et en fait, c'est que c'était pas la bonne formation pour moi. Je suis allée voir la prof de constellation après, et je lui ai dit voilà, moi ça m'intéresse, mais j'ai pas de pouvoir surnaturel comme les autres là du cours. Donc je voudrais savoir si je peux pas apprendre moi toute seule avec vous. Et donc je me suis payée ma masterclass, et c'est comme ça que j'ai appris à accepter que en fait cette capacité là, tout le monde l'a, y compris moi. Et c'est plutôt mon esprit rationnel hein, qui ne veut pas lâcher, qui ne voulait pas lâcher. Et la formation sur les constellations, moi, c'était plus un cheminement vers j'accepte d'avoir de l'intuition, j'accepte de croire que ce que me dit mon ressenti est vrai et que c'est ça qui va aider. Je ne sais pas si je suis claire.
Si.
Il y a deux, trois techniques à connaître parce que les constellations, en fait, elles reposent sur un principe super simple. C'est que tout le monde a sa place. Et que chaque chose a sa place et les moutons seront bien gardés ou les vaches seront bien gardées. La constellation, elle remet de l'ordre dans l'univers. C'est simple. Donc, c'était très utilisé, c'est pour ça qu'on appelait ça les constellations familiales, pour remettre des gens à leur place dans l'arbre généalogique. Par exemple, quand il y a des gens qui meurent ou des gens qu'on envoie à l'asile ou des gens qu'on spolie ou des choses comme ça, il y a une injustice qui est créée dans le système, où on a enlevé la place à quelqu'un. Et donc, de remettre cette personne à sa place, eh bien, ça refait que le système refonctionne. Donc, les constellations familiales, c'est vraiment du ménage et du rangement. C'est aussi con que ça. Donc, il y a des phrases très simples pour remettre les gens à leur place. Et puis, après, c'est juste... Pour avoir les bonnes infos et remettre la bonne personne à sa bonne place, il faut pouvoir lui demander de revenir à sa place. Et donc, tout le travail va être de lui demander poliment et gentiment et en utilisant un minimum de psychologie parce que chacun a sa personnalité et quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, eh bien, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Et le but du jeu, c'est de faire bouger les gens pour les remettre à leur bonne place. Et en fait, le talent d'un constellateur... c'est de faire bouger les gens pour les remettre à la bonne place.
Et comment ça s'applique en entreprise, ça ? Parce que ça doit en effrayer plus d'un quand même, ce type de méthode.
Alors, eh bien, bizarrement, moi, quand j'interviens en entreprise, je ne dis pas que je fais des constellations familiales. Moi, je dis que je suis coach. Et quand je travaille avec mon client ou ma cliente, des fois, on arrive à des trucs qui coincent. Et voilà, on peut réfléchir sur le sujet, faire de la résolution de problèmes, des trucs tout à fait classiques et en coaching classique. Et à un moment, je sais que ce qu'il faut faire, c'est une constellation qui va permettre au client de prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Je te prends un exemple très concret. J'ai un client qui veut se séparer de son associé Et comme c'est quelqu'un de très gentil et de très bien, il veut absolument que ça se passe super bien. Donc, quand tu travailles en coaching, on va dire rationnel, c'est bon, alors on va négocier une bonne porte de sortie, lui racheter ses actions, etc. Après, il y a je te fais réfléchir en tant que manager, donc quand tu as envie de te débarrasser de quelqu'un, c'est bah, tu fais son évaluation. C'est quoi ses objectifs de l'année? Est-ce qu'il les a atteints ou pas? Et c'est de faire une validation, j'ai envie de dire, un process RH hein, sur la personne ne convient pas au poste dans lequel il est, donc il faut qu'on change quelque chose. Donc, quand tu réfléchis sur des niveaux de qu'est-ce qu'on fait techniquement, légalement, dans une entreprise, t'aboutis à, il faut telle procédure, on va faire comme ci, tel machin, tel plan d'action. Mmh. Et quand on a fait, à un moment, j'ai dit, écoute, je te propose un truc, fais-moi confiance, c'est un jeu de rôle. Je vais me mettre dans la place de l'associé dont tu veux te séparer. Et toi, tu vas jouer ton rôle et puis on va le faire comme si tu me parlais et que tu me proposais de partir. Et en fait, j'ai mis le client en situation de constellation familiale, puisque en fait, moi, c'est comme si j'étais sur le papier de son associé, mm-hmm. et lui, c'est comme s'il était sur son papier. Eh bien, ça ressemble à un jeu de rôle, sauf que c'est pas qu'un jeu de rôle. Puisque la personne, au début, elle dit « c'est bizarre, j'arrive pas à te dire que j'ai envie que tu partes ». Ok, donc comment tu pourrais me le dire pour que je l'entende? Alors, il commence à dire j'ai été voir les RH et donc on a décidé que cette année, on allait faire ton évaluation de manière plus machin. Donc, il y va je suis ton patron et je te dis voilà ce qui t'attend. Et moi, quand je suis à la place de l'autre, le ressenti que j'ai, c'est mais j'en ai rien à foutre. Pour moi, ça me fait gagner du temps, c'est super. Et à un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit au client, c'est bizarre, le fait que tu me menaces, entre guillemets, ou que tu me préviennes que telle procédure va être enclenchée contre moi, en fait, ça me réjouit plutôt, parce que moi, je continue à toucher ma paye pendant que tu vas te divertir avec ce truc-là. Et là, j'ai pris mon client et je l'ai mis à la place là où j'étais, et moi, je suis venue à la place de mon client. Et là, mon client a ressenti, effectivement, que l'autre se foutait de sa gueule. Donc, tu vois, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel, il dirige sa boîte, il a plein de services de business unit, de machin, de trucs. Et juste le fait de le mettre à la place de l'autre lui a fait ressentir. Et le truc qui est absolument génial, c'est l'intuition est tellement forte pour lui qu'il n'y a pas besoin de lui dire « Ah ouais, effectivement, il se fout de ma gueule parce que gna 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 ». C'est « J'en ai la conviction profonde, l'intime conviction ». Donc, c'est pas comme ça qu'il va falloir qu'on négocie le truc. Et quand j'ai rechangé de place, donc j'ai repris le rôle de son associé et lui a repris son rôle, il a pu, comme il savait que c'était pas ça qu'il fallait, qu'il n'y avait pas de démarche rationnelle à utiliser, eh bien, il y est allé avec « Bon, allez, bats les masques, je veux que tu partes. Je veux que tu partes parce qu'il y a des gens qui ont déjà mis leur démission sur la table. Si tu partais pas, c'est eux ou toi. Enfin, tu me poses des problèmes aujourd'hui. J'ai envie de te garder parce qu'on a fondé la boîte ensemble, on a fait des trucs ensemble, on a une aventure ensemble. Mais aujourd'hui, tu es dans ta zone d'incompétence et ça ne peut plus durer comme ça. » Et là, moi, à la place de l'associé, j'entends un soulagement en disant effectivement, je suis dans une posture où je tiens pour sauver la face. Alors qu'en fait, j'ai juste envie de ne pas être là où je suis. Et quand tu es coach, tu dis, monsieur, je vous conseille de gna gna gna, etc. Avec la constellation, le client, il a pris conscience de, faut y aller franco, faut y aller avec une bonne colonne vertébrale, faut y aller avec les tripes sur la table. Et le langage commun, c'est que là où je vois mon associé comme... il est en train de pourrir ma boîte, il est en train de dégrader de la valeur, il est en train de faire partir des gens. Tu arrives à faire alliance sur, en fait, il veut lui aussi trouver sa place dans la boîte, mais comme il est associé, il ne pouvait pas accepter un rôle moindre que directeur commercial, directeur des opérations, directeur financier, directeur machin, dans lequel il se fait chier et dans lequel il n'est pas à sa place. Et comment faire comprendre à un client de manière rationnelle que finalement, celui qui souffre le plus de la situation, c'est la personne que l'on croit responsable et coupable du problème? eh bien, les constellations, ça permet en 30 secondes de faire le point et du coup de partir sur des solutions que tu n'aurais jamais envisagées au début. Parce que, voilà, raisonnablement, quand on travaille dans une entreprise, on est tous sérieux, on est tous sans égo, sans affect, et on travaille en bonne intelligence. Mon cul, pardon, c'est pas vrai.
Alors, le temps file, ça m'embête parce que j'aimerais quand même aller au bout. T'as pas à t'excuser, c'est moi déjà. Mais en fait, j'ai envie quand même de prendre un peu plus de temps parce que... Ça crée quand même un inconfort en moi. Donc déjà, j'ai deux choses qui me viennent. La première, c'est avec ce client, quand il est allé voir son associé, comment ça s'est passé? T'as eu les retours?
Oui, j'ai eu les retours. C'est extraordinaire, Pilar. Vous m'aviez dit qu'il serait soulagé. Et il était vraiment soulagé. Le mec s'est mis à pleurer, mais pleurer de joie. Pas de « Ah, tu veux plus de moi, c'est horrible », c'est « Merci, parce que je ne savais pas comment me sortir de cette situation ».
Ok.
Voilà,
texto. Parce qu'en fait, quand j'écoute ces histoires, ça crée quand même un inconfort en moi qui est comment je fais la différence entre accéder à cet inconscient. Parce que là, on parle d'une personne qui est extérieure à toi et ton client. Donc, quelque part, tu es en train de dire qu'on accède à l'inconscient aussi de l'autre qui n'est pas là.
Alors, oui et non. Tous les inconscients communiquent. Donc, à l'intérieur de toi, Johanna, je trouve le monde entier. Voilà, énergétiquement, nous sommes tous connectés. Selon ce qui sort dans la constellation, il y a des gens qui vont apparaître. Par contre, là où, et j'espère que c'est ça qui va te rassurer, c'est que ce qui change, ça n'est pas l'inconscient de l'autre qui n'était pas là pendant la constellation. C'est l'inconscient de mon client. En fait, mon client, avant de faire la constellation, il avait une posture. Je suis un mec réglo, je vais utiliser la loi, le droit, le sens et la raison pour atteindre mes objectifs. À la fin de la constellation, la posture intérieure de mon client a changé puisque le changement, il est dans... En fait, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui est en difficulté, c'est quelqu'un qui souffre. Et lui demander de partir, ça fait partie de la solution pour le soulager.
Oui, c'est là où j'ai mon inconfort. Je comprends ce que tu dis, je ne remets pas en cause le fait que cela fonctionne, mais souvent, dans nos relations, on est plein de projections sur l'autre. C'est-à-dire, c'est ce que tu as décrit quand tu parlais des constellations de groupe. C'est qu'il faut être quand même bien centré, j'ai envie de dire, pour ne pas confondre ce que l'on veut croire avec le vrai ressenti de l'autre en face.
Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une constellation, c'est vraiment une séance d'ostéopathie de l'inconscient. On remet à la place des choses qui nous empêchaient de bien fonctionner avant. En l'occurrence, ce qui a changé, c'est quelque chose à l'intérieur de mon client sur son attitude vis-à-vis de l'autre. Ce qui fait qu'à la place d'aller à cette réunion en étant dans « putain, j'ai un gros problème, il faut absolument qu'il parte parce que s'il part pas, j'ai pas de solution à mon problème », il y est arrivé, non pas en disant « l'autre, c'est le problème », il y est arrivé en disant « c'est toi qui as un problème et je peux t'aider à le résoudre ». Et c'est son attitude intérieure qui a changé. Et c'est parce que lui a changé de l'intérieur que la relation a été complètement différente et que la personne en face a pu être elle-même. C'est aussi bête que ça. Donc, on n'a pas manipulé des inconscients de gens qui n'étaient pas là. On ne les a pas gouroutés ou quoi que ce soit. C'est plutôt, à la place d'y aller en disant « l'autre est un ennemi à abattre », il y est allé en disant « mon ami a un problème et je peux l'aider ».
D'accord.
Et c'est cette posture, cette différence de posture qui fait que, là, que ça s'est bien passé.
Oui, je comprends. Et aussi, j'ai l'impression que là, dans ce cas particulier, il s'est connecté, au lieu d'être dans... ce qu'il faut faire ou d'être coincé là-dedans, il s'est connecté à ce qu'il avait vraiment envie de dire, quoi.
Exactement.
Sans toutes les couches de toutes les craintes qu'on peut avoir et qui nous font nous comporter autrement que ce qu'on a vraiment envie et besoin de dire. Écoute, merci beaucoup.
Exactement ça.
Merci beaucoup, Pilar.
Alors,
oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Je sais pas. Peut-être que cet exemple ne te parle pas. Juste pour reboucler sur l'exemple de cette cliente qui avait monté sa boîte et qui dit « je ne comprends pas, je n'arrive pas à la développer, à la lancer ». Eh bien, quand je me suis mise sur le papier de sa boîte, il y avait quelqu'un déjà qui dirigeait sa boîte. Il y avait quelqu'un d'autre qu'elle, à la tête de sa boîte, inconsciemment. Et tu sais ce que c'était ? C'était sa part masculine. Parce que quand elle se projetait en tant que président de boîte, elle était dans « il faut faire ça, j'ai une vision, j'ai un machin ». Et c'était sa partie masculine qui s'exprimait. Et sa partie masculine ne voulait pas d'elle comme patron, puisque c'est lui le patron. Et tout le travail de la constellation, ça a été de réconcilier comment je peux gérer une boîte avec le « je dois être profitable, je dois me développer, je dois », avec sa partie féminine qui est « je veux faire ça, je veux que ça apporte ça, je veux prendre du plaisir à le faire, je veux que les gens, que mes collaborateurs soient heureux ». Voilà.
D'accord. Donc,
okay. Et là encore, c'est une différence de posture à l'intérieur où elle a pu accepter d'être une femme à la tête d'une entreprise, alors que pour elle, dans son mindset, c'était un bon chef d'entreprise, c'est un homme. Donc c'est ça qu'on a, on a changé le mindset grâce à la constellation. C'est vraiment qu'un outil. Je ne sais pas si c'est plus clair ou si ça donne un autre contexte.
Pour moi, c'est très clair, mais je me fais toujours aussi l'avocat du diable, sache-le.
Mais tu as raison.
Je te propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews.
Oui.
Avec la toute première question qui est, est-ce que tu as fait une erreur ou est-ce que tu as eu un échec dans ta vie qui t'a beaucoup appris, qui t'a fait avancer ? Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire ?
Alors, Dieu merci, j'ai eu plein d'échecs et j'ai réussi à surmonter l'épreuve de faire les... Alors, le plus gros échec, vraiment celui qui m'a le plus marqué, c'est justement quand j'ai viré ma cutie, quand je suis passée du conseil et que je suis passée de l'autre côté du miroir en étant client. Quand on est consultant, on est persuadé que c'est le client qui est la bonne place, puisqu'on devient son esclave et on bosse comme des chiens pour lui et on se dit... Voilà, je pense que tous les consultants ont le fantasme de « un jour, je serai client et je torturerai à mon tour les consultants ». Voilà, moi je suis partie avec mes critères de réussite et d'efficacité d'un consultant et je les ai transposés dans le monde du corporate, ce qui a été une monumentale erreur puisque je me suis retrouvée de super performeuse à grosse merde. Et je l'ai pris personnellement, c'est-à-dire que pour moi, le fait que je n'y arrive pas dans l'entreprise, c'était vraiment parce que je n'étais pas bonne, hein, puisque j'ai passé ma scolarité à être une super bonne apprenante, super bonne élève, et ensuite en tant que consultante, à être une super bonne consultante. Donc j'étais toujours dans, j'ai des 20 sur 20 partout, je ne comprends pas pourquoi là j'ai zéro. Et ça m'a fait vraiment faire un burn-out, hein, aussi con que ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit que selon le métier, on a des types d'interventions différents, mais on a aussi des critères d'efficacité différents. Et du coup, on a aussi des critères de réussite et de bonheur différents. Et du coup, je pense que moi, ça m'a servi, en tout cas aujourd'hui, dans mon travail de coach. Quand les gens me disent « je voudrais faire ça », la première chose que je questionne, c'est quoi le critère de réussite derrière ? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « ouais, je voudrais monter mon projet, je voudrais monter ma boîte, je voudrais être le leader de machin ». Parce qu'on nous vend que la réussite ressemble à un certain style. Je suis jeune, je suis beau, j'ai une Rolex, une femme, deux enfants, un chien, un chat. Et les gens pensent que la réussite, c'est vraiment ça. Alors que la réussite, il y a une infinité de façons de réussir et d'être heureux. Et ça, c'est, je pense que l'un des gros, en tout cas pour démarrer un travail, c'est de faire accepter aux gens que être le chef, être le leader, être le machin, c'est un truc qu'on vend, mais c'est pas forcément ce qui leur convient. Et j'ai pas mal de clients qui me disent, j'ai eu de la chance, hein, j'aurais jamais pu être entrepreneur, Et les gens s'excusent presque d'être un bon directeur de business unit ou un bon manager ou juste, voilà, moi, je suis bien là où je suis dans ma boîte et je n'ai pas envie de progresser. Et ils s'en excusent comme, je m'excuse de manquer d'ambition. Alors qu'en fait, ils sont là où ils ont envie d'être et qu'ailleurs, ils ne seraient pas plus heureux. Donc, voilà, l'erreur, c'est de penser qu'il y a un seul critère ou un seul référentiel de réussite et de succès et d'efficacité personnelle. Alors qu'il y en a un milliard et que chacun a le sien et que surtout, il dépend aussi du contexte dans lequel on est.
D'accord. Deuxième question. Une technique ou un outil qui t'a fait avancer personnellement, professionnellement, hormis les constellations, bien sûr ?
Alors, moi aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va vite et tout ce qui fait bien le job et qui règle le problème vite. Donc en ce moment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est toute cette branche de la psychologie énergétique qui est... Je travaille sur le mindset, sur le mental, mais de façon rapide en utilisant le corps. Donc j'ai envie de dire que moi, mon cadre de référence, mon tout début quand je me suis reconvertie, c'est je suis rentrée par la porte de la sophrologie. Donc je vais rendre hommage à cet outil de base qui est la sophrologie, qui a permis de faire le lien entre tout ce qui se passe dans ta tête se passe dans ton corps, et que quand tu peux pas rentrer par la fenêtre, quand tu peux pas rentrer par la porte parce que le mental s'autoprotège, eh bien on peut rentrer par la fenêtre, on peut rentrer par la serrure, on peut rentrer par la lucarne. Il y a plein d'autres portes d'accès qui fait que quand il y a un truc qui va pas dans le mental, il y a plein de points d'accès qui permettent de rentrer dans le mental sans que le mental s'en rende compte. Et je trouve ça génial. Donc les techniques holistiques, ou en tout cas qui mêlent l'esprit et le corps, moi, m'interpellent, pardon. D'accord. Donc la sophrologie, mais aussi le EFT, aussi l'énergétique, aussi tout ça, quoi.
D'accord. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
J'ai envie de dire qu'il faut être un bon être humain. Moi, j'ai mon triptyque liberté, dignité et responsabilité. Après, moi, j'ai envie de dire, pour être un bon manager, il faut être un bon parent. Il faut vouloir le bien des gens qui travaillent avec vous. Il faut vraiment avoir cette envie de voir les gens progresser. Et je pense que c'est une qualité qu'on retrouve chez les parents. Parce que pour nos enfants, on est prêt à tout. Et on veut qu'ils grandissent et qu'ils soient heureux. Et un manager, j'ai envie de dire que la bonne qualité, c'est... moi, je veux que mes collaborateurs grandissent et soient heureux. Donc voilà, être des bons parents.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ? Que tu conseillerais à la lecture ?
Alors oui, La nausée de Sartre, mais je l'ai lu quand j'avais 14 ans et je me suis dit, putain, Dieu existe, hein, c'est pas possible. J'ai pas de livre de chevet particulier, j'ai envie de dire que c'est le prochain livre que tu vas acheter qui va te donner l'info qui va bien.
Je reconnais ton énergie qui va de l'avant, c'est marrant ta réponse.
Alors, c'est très drôle parce que moi, je vénère les bouquins. Si tu viens dans mon bureau, j'ai une bibliothèque avec... 1 milliard de bouquins qui n'est que le sommet de l'iceberg. Je suis une très, très grosse consommatrice de bouquins. Et quand les gens me disent « Ah, vous avez tout lu ?» Je dis non, en fait, parce que dans chaque bouquin, il y a la page que j'ai ouverte au moment où je l'ai ouverte avec l'info dont j'avais besoin à ce moment-là. Et j'ai gardé le livre en souvenir de ce moment extraordinaire qui était « Putain, j'ai besoin d'un truc, j'ouvre le bouquin, j'ai la réponse. » C'est dingue. Mais là, je suis dans mon trip, il faut que je fasse un peu le ménage et j'ai du mal à jeter des livres parce que c'est je jette de la connaissance et bon, j'ai un système de pensée qui fait que je survénère la connaissance et les livres. Mais je m'aperçois que quand je donne mes livres, ça me permet de faire de la place pour les nouveaux que j'achète et les nouveaux que j'achète m'apportent des réponses aux questions que je me pose maintenant. Mmh. Donc je remercie mes anciens livres pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et j'accueille avec plaisir tous les prochains livres qui vont m'aider à être encore meilleur dans le métier que je fais.
Et on va finir avec une citation qui t'inspire.
C'est celle de Sénèque qui est ultra connue. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Moi, ma spécialité, c'est de faire que les gens agissent. C'est de résoudre les problèmes et faire que tous les blocages inconscients ou conscients soient nettoyés pour que tu puisses enfin être toi-même et vivre ta vie et agir. Et cette citation de Sénèque, moi, elle me plaît pour deux raisons. La première, c'est parce que Sénèque était un stoïque et que je suis une fan d'Épictète. Je pense que la vie, elle est faite pour apprendre, elle est faite pour progresser, elle est faite pour expérimenter, elle est faite... alors bon, Épictète, c'était pas un très joyeux, mais voilà, je pense que la vie est faite pour jouer au sens j'apprends la vie. Et il faut vivre sa vie en l'apprenant. Et donc Sénèque est de cette école-là, et je trouve que des fois, il faut arrêter de réfléchir, parce que j'ai malheureusement ce défaut-là. Il faut arrêter de trop réfléchir, il faut se lancer. Et c'est en marchant qu'on avance. et on avance en marchant, on apprend, enfin je sais pas quel est le bon proverbe, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, ou c'est en mangeant que l'appétit vient, enfin un truc comme ça, je sais plus. Mais à un moment, l'action fait réfléchir et fait grandir. Et notamment pour tout ce qui est problème de confiance en soi, les gens viennent me dire « Ah voilà, j'ai pas confiance en moi, donc j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela. Donc je voudrais avoir de la confiance en moi, et quand j'aurai suffisamment confiance en moi, alors je ferai. » Et en fait, le truc, c'est que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je fais, et c'est en faisant que je m'aperçois que finalement, je suis pas si mauvais, donc je gagne de la confiance, et donc je refais encore mieux, etc., etc. Donc voilà, l'action, des fois, agir avant de réfléchir, c'est pas mal.
Comment peut-on te retrouver, te contacter? Tu as un site internet?
Alors oui, il est très vieux, il est tout pourri, mais je l'aime. Ça s'appelle www.pilarlopez.com et vous y retrouvez mon style, j'espère, inimitable.
C'est sûr. De toute façon, je mettrai la citation, le livre, ta bio, tout ça, et ton site internet dans la description de ce podcast. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ce qui vient là
Se revoit.
Mais ça ne serait tardé, puisque je viens à Paris bientôt, donc j'ai une baguette magique et je peux réaliser un de tes souhaits. Quel est-il?
Eh bien, figure-toi qu'un éditeur complètement inconscient m'a demandé d'écrire un bouquin. Et donc, je suis dans les affres du « Ah, mais pourquoi je peux parler de ce sujet, c'est horrible. » Donc, si tu pouvais m'obtenir un délai supplémentaire pour rendre mon manuscrit, eh bien, je te serais éternellement reconnaissante.
Ce sera quoi le sujet du livre?
Alors, écoute, c'est encore en cours, puisque je change d'avis comme une girouette, hein, je suis une femme, finalement. Mais à grosse maille, c'est entre comment passer la crise de la quarantaine et changer de vie sans la foutre en l'air.
Ok. Bon, merci beaucoup, Pilar. Je te souhaite beaucoup de réussite et d'action, hein, puisqu'on a parlé d'action.
Yes.
Et on se revoit bientôt, alors.
Super. Eh bien, je t'embrasse, toi et tous tes auditeurs. Et comme a dit une coach assez célèbre, Danielle Laporte, il ne faut jamais refuser une interview parce que c'est un ange qui te tend le micro. Et donc, Johanna, c'était pour te dire que tu étais mon ange.
Oh, c'est sympa. Merci beaucoup, Pilar. J'espère que cette interview vous a plu parce que c'est la dernière avant un petit bout de temps puisque je ne serai de retour qu'en septembre. Et oui, le podcast prend une pause et moi avec. Et je voulais, comme promis en début de podcast, vous raconter un peu cette constellation que j'ai vécue maintenant il y a 10 jours, donc ça me donne un peu de recul. Ça a été une expérience bouleversante dans le bon terme, bouleversante qui bouleverse les choses pour remettre les choses en place. C'est un processus qui dure à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures, où on expose sa problématique assez brièvement. On écrit sur des papiers les 10 différents intervenants de la situation. Alors ça peut être un mot qui représente le problème, ça peut être des personnes, ça peut être plein de choses. Et ce qui se passe, c'est que pendant la constellation, il y a des papiers qui se rajoutent. Donc Pilar, en fait, sent de nouveaux éléments et rajoute des papiers. C'est très, très, très fort dans le sens où ça permet d'extérioriser une problématique dont maintenant je me dis que j'avais tous ces éléments. C'est-à-dire qu'elle a exprimé des choses que j'avais en mon fort intérieur et dont je ne parle pas vraiment. Parce qu'ils sont presque, alors que je pense être quelqu'un d'ouvert et pas avoir beaucoup de secrets, il y a des choses qui sont profondément en moi et que je n'exprime pas pour peut-être ne pas inquiéter les gens avec qui je parle. Et elle les a exprimées, c'est-à-dire qu'elle a identifié des choses qui sont vraiment cachées au tréfond de moi. Donc cette extériorisation, donc il y a tout d'un coup de voir à l'extérieur de soi et d'entendre par la bouche de quelqu'un d'autre des choses qu'on sait mais qu'on n'arrive pas à articuler ensemble, ou en tout cas que moi je n'arrivais pas à articuler ensemble. Et puis il y a cette possibilité d'interagir avec les différents éléments de la situation. Il y a vraiment un processus par ce jeu de rôle, par... Bon, moi, je suis restée la plus grosse partie de la séance sur mon papier. Dans le podcast, elle dit que souvent, elle met le client à la fin, mais moi, j'ai fait le choix de rester sur le papier tout le long du processus. Et donc, on regarde les différentes parties de soi, on va dire, ou les différentes parties du problème, se parler les uns entre les autres via Pilar. Mais on peut et on a la possibilité, à un moment j'ai ressenti une gêne qui m'empêchait de continuer, de pouvoir parler avec une de ces parties pour résoudre, guérir, dire et s'entendre dire les choses qui coincent. Un autre aspect que j'ai trouvé extrêmement puissant, c'est une forme de projection. Par exemple... vous n'arrivez pas à vivre quelque chose ou quelque chose, un élément dans votre vie manque. Et en tout cas, dans la constellation que j'ai faite, il y a cette projection possible. Et c'est vrai que même si vous avez Pilar en face de vous, qui est supposé représenter quelqu'un ou quelque chose, c'est comme si... vous accédiez à un no man's land, votre no man's land. Elle vous fait expérimenter ce que serait de vivre cette situation que vous désirez. Et je crois vraiment que ça a un impact fort, donc et sur la remise en place des différents éléments, et sur cette ouverture au possible, sur quelque chose qui vous semble inatteignable, qui devient possible. Voilà, donc ça reste un grand mystère, hein, cette constellation. Je l'ai déjà conseillé à plusieurs amis. Je crois que en effet, c'est très puissant, c'est très intense. Je me suis sentie vraiment vue, alors que... on ne parle pas vraiment, mais c'est pour ça que je ne peux pas dire. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie comprise par moi-même. Non pas par Pila, parce qu'elle est dans les différents rôles, donc elle est polymorphe, j'ai envie de dire. Mais tout d'un coup, de voir à l'extérieur de soi ce tableau se dessiner, dont on connaissait les parties, mais on ne savait pas comment elles s'assemblaient ensemble. Donc, un grand merci, je conseille vivement. Je crois beaucoup à l'expérimentation, je crois beaucoup... Voilà, on peut discuter de plein de sujets, plein de matières, mais il y a quelque chose que moi j'aime faire, c'est j'expérimente. Donc parfois, il y a des choses qui peuvent nous paraître farfelues, qui peuvent nous paraître trop cartésiennes, qui peuvent nous paraître je ne sais quel jugement on peut poser sur les choses. Je crois profondément à l'expérimentation, à essayer, à sentir... pour nous, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est efficace? Et je dirais que, en tout cas, pour moi, pour la façon dont je fonctionne, cette constellation avec Pilar restera un moment presque, j'ai envie de dire, décisif. L'avenir me le dira. Et l'avenir, ça commence maintenant. Je vous quitte. La vie m'appelle à de nouvelles aventures. J'aime savoir que tout n'est pas dans le marbre, fixé dans le marbre, et que on peut lâcher la barre, et c'est ce que je vais faire là pendant 4 mois. Ça va me manquer quand même, les podcasts. Je reçois des mails de gratitude, ça fait du bien de savoir qu'on peut partager, qu'on peut s'ouvrir à de nouveaux horizons ensemble. Donc c'est un plaisir de faire ce podcast, et si je suis toujours vivante après mes folies, si je suis toujours vivante, je reprendrai ces podcasts en septembre, et j'enverrai la prochaine newsletter en octobre. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, à ceux qui ont tenu ces 54 minutes. Et je vous souhaite de très beaux mois de printemps et d'été. On se retrouve à la rentrée scolaire. Bonne journée.